petite remarque pratique d'abord pour les rendez-vous sur les feuilles des prêtres, donc à nos portes. Je ne sais pas comment font les autres prédicateurs, mais donc en général, les premiers jours, je mets des rendez-vous qui sont petits, donc 15-20 minutes, bah, pour une première prise de contact, ou s'il y a besoin d'une confession, ou bon, etc. Puis après, les jours suivants, aussi en fonction un peu des préparations, parce qu'en général, quand on arrive les premiers jours, bon, il faut changer un peu de rythme, hein, il y a du décalage horaire, et donc il y a des instructions qui ne sont pas tout à fait finies, pas tout à fait au point. Donc il y a un peu de rodage, si vous voulez. Hein, donc ça ne vous empêche pas, même si c'est bon, les rendez-vous sont relativement courts, bah, vous pouvez repasser, et puis je pense durant la retraite, d'ici, j'espère demain après-midi ou mercredi au plus tard, vous pourrez avoir 20 ou 30 minutes plus tôt. Voilà, pour ne pas vous décourager, puis vous répartir bien sur les quatre prêtres. Si vous avez du mal à trouver l'un ou l'autre, pour moi c'est facile, c'est au bout du couloir, mais pour d'autres, il faut faire un peu d'escalade, il y a des escaliers, bon, n'hésitez pas à demander. Notre sujet de cet après-midi, donc un sujet qui me semble un peu délicat. Au moins aussi délicat que de parler de Dieu, des perfections divines et de la très sainte Trinité. Pourquoi ? Parce que de même qu'il y a un mystère de Dieu, un mystère de ses perfections, un mystère de sa vie intime, il y a un mystère du péché. Voilà. C'est une réalité mystérieuse, le péché. Et précisément, lorsque nous avons à parler du péché, il est important d'avoir toujours en présence, donc dans notre esprit, la toile de fond de la création que vous avez faite ce matin, je pense, donc Monsieur l'abbé Troidec, c'est lui qui traitait ce matin du sujet, c'est les perfections divines, Dieu créateur, Dieu, donc il m'a passé sa feuille pour que je vois un peu comment je pourrais introduire mon sujet. C'est beaucoup attardé apparemment donc à la puissance de Dieu, à sa bonté, hein, à deux perfections divines. On pourrait se dire, alors il fallait traiter toutes les perfections. Non, parce que une seule perfection divine poussée à bout, on les a toutes, en fait. Voilà. C'est vrai que le plus souvent, on s'arrête à sa sagesse, hein, sa bonté, sa puissance. Hein, infinie, toutes. Donc, pour savoir ce qu'est, donc d'abord avoir le mystère du péché suppose le mystère du bon Dieu. Première chose. Bien avoir à cœur ça. Bien avoir ce sentiment-là, hein, cette connaissance surtout. Donc en gros, le sens de Dieu, voilà. Qui est Dieu, voilà. Qui est le bon Dieu, hein. Et puis deuxièmement, donc, puisqu'on parle de péché et de mal, eh bien il faut une forte conviction, voilà. Une forte conviction, pas seulement intellectuelle, mais je dirais vitale, de la bonté de Dieu. Hein, bonté de Dieu. Et c'est vrai que pendant une retraite, comment penserez-vous à la bonté de Dieu? Eh bien, en vous arrêtant au bienfait du bon Dieu, voilà, au bienfait personnel que Dieu a eu pour vous. Hein. Et en général, d'ailleurs, quand on voit tous ces bienfaits, bah, presque automatiquement, on voit comme on en a mal profité, tout simplement. Hein. On est plein d'actions de grâce, on dit, on ne saura jamais comment assez remercier le bon Dieu de telle ou telle grâce de notre vie. Oui. Péché d'ingratitude, souvent, c'est ce qui blesse le plus le cœur de celui qui aime. L'ingratitude, l'infidélité. Alors vous voyez, il faudrait que vous ayez, vous, pour cette instruction, c'est ce qui la rend difficile, elle suppose chez vous, non seulement que vous vous souveniez un peu tout ce que vous a dit ce matin M. Abbé Troidec, peut-être que vous en avez fait, j'espère que l'une ou l'autre pensée vous a touché, voilà, a touché, et que vous soyez habité par ce sens du bon Dieu. Alors je voudrais, pour cela, eh bien, vous lire un petit texte sur le sens de Dieu. Et après, nous passerons justement au sens du péché. Mais d'abord, il faut, pour bien avoir le sens du péché, il faut le sens de Dieu. Notre génération a perdu le sens de Dieu. L'auteur écrit dans les années 50, je crois. Même 61, imprimatur 61. Fait unanimement reconnu. Elle a surtout perdu le sens de la grandeur de Dieu. de sa majesté infinie, et d'une manière plus générale, le sens du sacré. Elle croit encore, dans une certaine mesure, en sa bonté, qui est plutôt une bonté débonnaire, bonasse, si l'on peut dire en sa bonté. Elle est plutôt portée à traiter avec lui d'égal à égal, l'orgueil de l'homme moderne. Elle ne sait plus guère ce que c'est que le respect de Dieu. Et cela, c'est grave. C'était tellement grave que, en 1948, le cardinal, je ne sais pas où il était, peut-être à Paris, mais je ne me souviens plus bien de où il était, à quel endroit il est. Le cardinal Suard a consacré une lettre pastorale en 1948, tout entière sur le sujet du sens de Dieu. Entièrement. Il faut admettre d'abord qu'il nous est très difficile de bien connaître Dieu à cause de la faiblesse de notre intelligence et justement de la grandeur, de l'infini de Dieu. Nous sommes si petits et si ornés, et lui, il est si grand. Donc, il faut bien avoir cela, bien avoir conscience de cela. Nous rappeler que le bon Dieu, il est invisible. Et donc, d'une certaine façon, tant que nous n'avons pas des effets visibles de ce que fait le péché au bon Dieu, bien, nous n'avons pas la connaissance du péché. Et généralement, d'ailleurs, lorsqu'on parle du péché par rapport aux perfections divines, aux perfections du bon Dieu, c'est beaucoup plus difficile que d'en parler par rapport à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça qu'après le péché, je crois ce soir, vous aurez une instruction sur notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons voir ce qu'a fait le péché au bon Dieu, il faut voir ce qu'a fait le péché à notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement dans son humanité, mais dans sa divinité, parce que c'était le bon Dieu. Jésus, c'est le bon Dieu. Alors Dieu est inaccessible. Ça, c'est une... On voit dans l'Ancien Testament, celui qui est... non mystérieux qu'on donne au bon Dieu, sa transcendance, on a dû vous en parler ce matin, infiniment au-dessus et séparé tout homme, la sainteté de Dieu, sainteté c'est l'assemblage de toutes ses perfections, voilà. Un Dieu vivant, c'est le maître de tout, le créateur, il est à la fois tout intérieur aux choses, et puis en même temps il les transcende, voilà. Et puis surtout ce qui nous touche davantage, ce qui devrait nous toucher davantage, le bon Dieu, il est tout amour. Il est tout amour, le bon Dieu. Et ça, il faut s'en persuader. Et dites-vous bien que tout le travail de ce monde, et du prince de ce monde, c'est d'essayer de nous faire douter de la bonté de Dieu. D'essayer de nous faire douter de la sagesse de Dieu. D'essayer de nous faire douter de sa puissance, de sa providence. Chaque fois, voyez, que le mauvais ou le monde ont réussi à nous faire douter quelque chose sur Dieu, c'est une victoire. Alors il ne faut pas nous laisser vaincre. Il ne faut pas avoir ces défaites-là. Chaque fois qu'on cherchera par objection, sophisme, par suggestion le plus souvent, à vous faire croire que le bon Dieu, il n'est pas bon. Le bon Dieu, il n'est pas sage, il n'est pas puissant, il n'est pas providence. Eh bien, faites des actes conquérants, voilà, des actes triomphants. Si le bon Dieu, il est bon. Voilà. Si le bon Dieu, il est sage. Même si on ne voit pas, a priori, le bon Dieu, il est bon. Sinon, on n'existerait pas, déjà. Premier bienfait de la création. Sinon, on ne continuerait pas d'exister. Bonté de la conservation, de la création continuée. Et puis pour nous, chrétiens, c'est grâce du baptême, c'est grâce de la vie divine. Il faut toujours avoir cet arrière-plan. Pourquoi avez-vous si souvent du mal à faire vos examens de conscience, vos examens de défauts dominants ou particuliers, que sais-je encore? Parce qu'au fond, vous n'avez pas assez d'expérience. Et nous en sommes tous là, rassurez-vous, même les soi-disant religieux, prêtres, etc. Nous n'avons pas assez conscience de la présence de Dieu, de l'action de Dieu. Alors le péché nous apparaît toujours dans un demi-jour ou une demi-obscurité. Voilà. Dieu, il est qui? Il est celui qui est. Celui qui est, celui qui est saint. Voilà. Alors pensez bien, bien toujours à ça pour toutes les expressions que je vais employer pour vous parler du péché. Notre vie, voyez-vous, depuis la création, et même depuis le péché originel, notre vie, le bonheur de notre vie, ça devrait être de vivre du souverain bien, du summum du bien. Ouais. Nous sommes faits pour vivre de la sagesse, de la puissance, de l'éternité, de l'immensité de Dieu. Et on voit bien ça, voyez. Si vous lisez la Genèse, Dieu qui se promenait le soir, à la brise du soir, il se promenait avec Adam dans la brise du soir. Quelle intimité! Quelle intimité! Quelle simplicité, quelle transparence. Voilà. Quelle transparence. Et vous le savez, depuis le péché originel, rupture. Rupture. C'est plus la simplicité, c'est plus la transparence. Voilà. L'irruption du mal dans le monde. Et c'est vrai, quand nous voyons la Genèse, au premier degré, nous pourrions penser que le péché, pourrions penser, comme ça, une lecture un peu rapide des deux récits de la Genèse, que le péché, finalement, on dit souvent, pour un peu rire, une pomme de poire et beaucoup de pépins. Oui, on pourrait dire ça, mais on oublie que, en pensant à ça, on pense surtout au mal de l'homme, au mal de la créature. Ah, Adam, quand je le rencontrerai au ciel, j'aurai deux mots à lui dire. Oui. Mais nous oublions une chose qui est d'abord, qui est fondamentale, qui nous aide à aller vraiment dans le profond du péché. Le péché, c'est pas d'abord le mal de l'homme. C'est pas d'abord le mal de l'homme. C'est aussi le mal de l'homme, c'est vrai. Loin de moi de vous dire, quand on voit tout ce que fait le péché, les actes du péché, l'état du péché, les suites du péché originel, évidemment que c'est le mal de l'homme. Mais c'est pas d'abord le mal de l'homme. Le péché, c'est d'abord le mal de Dieu. Vous voyez ? Par le péché, le bon Dieu, il est atteint dans ses perfections. Vous voyez ? Qu'est-ce qui a été atteint par le péché originel ? Eh bien, a été atteint par le péché originel en Dieu. Qu'est-ce qui a été attaqué en Dieu ? Sa bonté, sa sagesse paternelle. Il nous a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la science humaine. Mais non, écoutez pas ça. Le bon Dieu, il sait que le jour où vous en goûterez, vous serez comme lui. Il veut pas qu'on lui prenne sa place. Ah, ce menteur, cet homicide. Quel démon. Ouais. Faire douter de la bonté, de la sagesse, de la puissance de Dieu. Et ça, vous le retrouverez, bien chers amis. Vous le retrouverez dans tout péché, en petit ou en grand. Plus ou moins, on attaque une perfection de Dieu. C'est plus ou moins conscient, attention. C'est au summum de conscience, vous inquiétez pas, bien sûr, dans le démon. Ou dans des hommes qui sont des suppôts du démon. Mais chez l'homme, c'est pas aussi conscient que ça, bien sûr. Chez l'être humain. Et pourtant, c'est ça. On attaque la bonté paternelle de Dieu. On attaque sa puissance. On attaque sa sagesse. On fait douter de Dieu. Et quelle victoire! Lorsque le démon a réussi, le démon ou toute autre personne alliée du démon, a réussi à faire douter un peu de Dieu, c'est gagné. La brèche est dans la créature. Alors, faut pas se laisser vaincre. Jamais se laisser vaincre par ce mal-là. Saint Paul qui nous dit de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Par le bien moral. Ce bien moral vécu en Dieu, source de tout bien. Le bon Dieu a été atteint dans son amour. Et j'entendais ce matin, je suis passé dans le couloir, il y a quelques phrases très belles. Alors, je me suis arrêté, c'était facile. Je me suis dit, je n'osais pas passer à la porte parce que je me disais, je vais gêner un peu ou bon. Voulez-vous rendre compte de ça? Imaginez que celles qui sont mères, quoi, après des années de dévouement à vos enfants, tel ou tel enfant, c'est ce que vit en général la mère peut-être au moment de l'adolescence, souvent il y a un peu de ça. Le reniement de la mère, ah, que ça fait mal. Justifié, pas justifié, il ne s'agit pas de dire qui a tort, qui a raison, bon, peu importe. Mais de soi, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'un enfant renie son père ou sa mère, ça fait mal. Et alors là, vous imaginez ce que ça fait dans le bon Dieu? Oh, mais le bon Dieu, il n'est pas sensible, il est au-dessus de ça. Ah, quelle ignorance. Le bon Dieu est infiniment sensible. Il n'est pas sensible, il n'a pas de passion, le bon Dieu. Ah non, il n'a pas de passion. Mais pour nous faire comprendre son amour, pour nous faire comprendre qu'il a lui qui a créé des êtres sensibles, il est infiniment sensible à l'offense qu'on fait à son amour, eh bien, vous n'avez qu'à lire la Sainte Écriture. Ah oui, les exégètes modernes nous diront, oh, tout ça, c'est des anthropomorphismes. Il pleure, il gémit, il crie, il reprend, il est jaloux. D'une sainte jalousie. Oui. Tous les sentiments humains sont collés dans le bon Dieu, purifiés de ce qu'ils ont imparfait dans l'homme. Mais ça existe en Dieu. Il est la source des sentiments humains, et donc ces sentiments humains, purifiés de ce qu'ils ont créé, existent en Dieu. Et donc quand on pêche, on fait du mal au bon Dieu. Alors les enfants parfois, ou deux personnes de foi, disent « Ah, tu as fait tel péché, tu fais pleurer la Sainte Vierge, tu fais pleurer Jésus. » Ça nous aide un petit peu à comprendre qu'il y a des pleurs en Dieu. Oh, c'est bien une manière humaine de parler. Eh non, pas si humaine que ça. Et pourquoi nous imaginons-nous que le petit François de Fatima disait qu'il voulait être le consolateur de Dieu? parce que le Dieu, bon Dieu, est atteint dans son amour. Voilà. Le bon Dieu, il est tout bien, et il crée le bien dans ses créatures. Voilà. Et le fondement de la justice de Dieu, c'est de vouloir que ce bien qu'il ait créé, eh bien, ce soit le rayonnement de sa gloire. Oui. C'est beau le soleil, c'est beau les rayons du soleil. Mais imaginez qu'on puisse enlever des rayons du soleil, eh bien, le soleil sera moins beau. Eh bien, la créature doit être un rayonnement de la gloire de Dieu, un rayonnement de sa bonté. Et comment se fait ce rayonnement? Par un retour vers sa source. Et qu'est-ce qu'a pas fait Adam? Voilà ce que n'a pas fait Adam. Bon Dieu, source de bonté, source de justice, de création, de conservation. Voilà. Et on veut goûter l'arbre de la science du bien et du mal. Qu'est-ce que c'était que cet arbre? C'était une pomme, c'est un fruit. D'abord, poma, c'est pas une pomme spécialement, c'est un fruit. On ne sait pas quel fruit, et peu importe à la limite. Mais ce fut sûrement d'abord un acte de désobéissance et d'orgueil, qui consiste à vouloir créer soi-même l'ordre du bien et du mal, qui consiste à avoir cette expérience du mal, cette connaissance du mal qu'on a en ne le commettant. Voilà. Voilà ce que c'est l'art de la science du bien. Et le droit, bon Dieu, il avait le droit de pourquoi il a dit ça et pourquoi? Ben, je vous poserai une question. Pourquoi un père de famille ou une mère de famille qui ont dans leur jardin des petits buissons avec des petites boules rouges, c'est très joli à voir, mais c'est pas bon du tout à manger, on risque d'être malade, voire pire. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire à leurs enfants, ne prends pas ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas pour manger, ça sert peut-être pour faire beau, ou pour d'autres usages que peut-être ferait la pharmacie à petite dose de ces choses qui sont du poison, mais en tout cas c'est pas bon à manger. Est-ce que les parents n'ont pas le droit? Alors a fortiori, le bon Dieu, il a le droit de savoir ce qui est bon et bien et mal. C'est lui qui est la source du bon, du bien et du mal. Voilà. Et donc le bon Dieu, bien sûr qu'il avait le droit strict de savoir ce qui était bon et mal pour sa créature. C'est lui qui a fait l'ordre. L'ordre du souverain bien et de tous les biens qui sont placés selon la hiérarchie de tous les biens, car il y a un ordre dans l'univers. Il y a des choses inégales dans l'univers. Et le mal, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre une chose qui n'est pas à sa place. Qui n'est pas à sa place. Un caillou doit être à la place du caillou, une herbe à la place de l'herbe, des animaux à la place des animaux, et les êtres humains à la place des êtres humains. Si on inverse tout ça, il y a déjà un mal là-dedans. Et encore plus si on le veut, ce mal, bien sûr, ce mal moral, un désordre, voilà, un manque de sagesse. Alors voilà, il faut que vous sachiez que dans tout péché, eh bien, oh, souvent on nous parle de péché, offense à la justice, c'est vrai. Mais nous oublions souvent que cette justice, d'abord que le bon Dieu il a, c'est une justice vis-à-vis de son amour. Étant le souverain bien, le souverain amour, il doit quelque chose à cet amour. Et ces créatures qui viennent de ce souverain bien, ce souverain amour, elles doivent quelque chose à cet amour. Voilà. Et il faudrait, c'est vrai, si nous le pouvions, parler plus de la justice en fonction du saint amour. Voilà. Ah, laissons ça à nos saints, laissons ça à nos docteurs de l'Église, mais le savoir un petit peu. Que cette justice du bon Dieu, elle est baignée dans un grand amour. Voilà. Et c'est ce grand amour qui explique que l'amour complètement refusé, c'est la haine. Voilà. La haine, c'est pas quelque chose, c'est souvent quelqu'un. Le démon, c'est le haineux. Voilà. Le menteur, l'homicide, le haineux. Voilà. Et qui veut produire la même chose, il peut pas se venger sur Dieu, alors il essaie de se venger sur la créature. Et, voyez. Péché. Alors après, bien sûr, on peut parler, et il faut le faire. Du péché mortel, du premier péché mortel, péché originel. Voilà. Pourquoi est-il si mauvais? Parce qu'il détourne de la fin. Nous sommes faits pour Dieu. Nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Nous sommes en Dieu. Nous sommes pour Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qui est mauvais? Eh bien, c'est de ne plus vouloir reconnaître que nous sommes de Dieu et que nous allons à Dieu. Et que nous sommes pour Dieu. Voilà. Alors quand cette privation totale de la est totale de la fin, c'est-à-dire qu'il y a un refus complet du bon Dieu, en quelque sorte, hein, privation totale de la fin, ce sera le péché mortel. Oui. Normalement, nous sommes faits pour être tournés vers Dieu et détournés des créatures. Voilà. Nous ne voulons pas prendre les créatures pour le bon Dieu. Les créatures, c'est les créatures, et le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Voilà. Normalement, nous sommes conversio ad Deum, converti, converti ad Deum, conversi ad Deum, nous sommes tournés vers Dieu. Par la création, nous sommes ça, bien qu'il y a le péché originel qui fait l'inverse, malheureusement, ou les suites du péché originel, qui fait qu'au lieu de naître face à la lumière, on est le dos tourné. Voilà. Et les créatures, non, vous n'êtes pas Dieu. Qui est comme Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Donc restez à votre place. Créature, tu es créature, reste à ta place. Même si elle est très haute. Même si tu es un ange, reste à ta place, tu n'es pas Dieu. même si tu es un homme illustre, reste à ta place, tu n'es pas Dieu. Voilà. Et le péché, qu'est-ce qu'il va être? Se détourner de Dieu, ce qui s'est fait dans le péché originel, et se tourner vers la créature pour lui dire, eh bien, je te sers, dans le cas du péché mortel, c'est ça, bien sûr, je te sers à la place de Dieu. Voilà. Chez l'orgueilleux, c'est très évident, il sert lui-même. Chez le premier orgueilleux, angélique, c'est ça. Je me complais en moi-même. Je monterai jusqu'aux hauteurs des cieux, dit le livre d'Ésaïe, et je me mettrai à la place du trône de Dieu. Ma nature me suffit. Je suis à moi-même mon propre Dieu. Je viens de moi, je retourne à moi, je suis pour moi, je suis en moi. Moi. Voilà. Le moi roi. Et il y a ça dans le péché. Et ça, c'est un péché mortel. Enfin, c'est l'état, vous voyez, la malice de ça. Plus le moi de Dieu, mon moi, à la place de « pousse-toi de là que je m'y mette ». Conversio ad creaturas, je me tourne vers les créatures et je me détourne de Dieu. T'es pas mon maître, je te servirai pas. Non serviam. Hein, on en a l'écho aujourd'hui, c'est peut-être pas dit aussi fort, explicite, sauf chez certains. Et voilà. Il y a ça, essentiellement, là est la malice. Oui. Malice du péché mortel. Détourner de Dieu et tourner vers la créature, vers la création ou vers mon moi. Voilà, moi. La révolte, l'orgueil. Orgueo, vous savez ce qu'il dit le Père Manuel dans son catéchisme de la vie chrétienne? Voilà. Je monterai, je me gonflerai, voilà, un peu le bœuf et la grenouille là, de La Fontaine. Non, c'est pas un saint. Quoique c'est Molière ou c'est La Fontaine qui est mort avec un cilice sur lui. Bon, peu importe. En tout cas, et boum, après ça éclate. Eh oui, ou bien que ça éclate à un moment. Bien, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Péché mortel. Conversio ad creaturas, aversio ad Deo. Si on est privé de sa fin totale et qu'on y reste, qu'on a dit à la créature, à son moi ou à toute autre créature, car en général l'homme qui veut se faire à lui-même son propre Dieu, il sert un autre Dieu, un Dieu mauvais ange. Moi j'obéis qu'à moi, pauvre idiot vain. T'obéis qu'à toi. Hein. Tu sais pas à qui tu obéis quand tu dis que tu n'obéis qu'à toi. Hein. Le démon qui se frotte les mains. Dans cette perspective, qu'est-ce qu'est le péché véniel? Alors, voyez, le péché mortel nous prive de la fin, totalement, définitivement, si on ne le regrette pas, évidemment. Si à l'heure de la mort, on meurt dans l'acte du péché mortel, eh bien, c'est plus ou moins, on dit plus ou moins explicitement au bon Dieu, à travers cet acte du péché mortel, je ne vous reconnais pas pour Dieu, je me préfère moi, mon bon plaisir, ma volonté, mes passions, la créature que j'ai choisie. Voilà. Péché véniel ne nous détourne pas, c'est un détournement partiel de notre fin. Voilà. En quelque chose, on perd pas la direction du chemin, mais on musarde un petit peu sur les bords du chemin. Hein, comme vous, si vous êtes venu, je sais pas, en retraite, là, vous devez être à 19h dimanche, bon. Bon, vous restez bien dans la direction, mais tiens, il y a une jolie église, on va s'arrêter, ou bon, on va pique-niquer un peu plus longtemps, etc. Bon, si vous le faites trop longtemps et que vous n'arrivez pas à 19h, c'est pas forcément un péché véniel, hein, rassurez-vous. Mais c'est un peu ce que fait le péché véniel par rapport au bon Dieu. Je ne suis pas détourné totalement de Dieu, je suis toujours en direction. Mais momentanément, ou partiellement, ou imparfaitement, soit dans la matière qui n'est pas très très grave, soit dans mon intelligence qui n'a pas voulu complètement ça, soit dans ma volonté, dans mon intelligence qui n'a pas complètement vu ça, qui n'a pas pensé au moment où elle le faisait, ou dans ma volonté qui n'a pas voulu parfaitement, intégralement, choisir cette créature de Dieu. Voilà, mais quand même, j'ai pas foncé comme une fusée vers le bon Dieu. J'ai un petit peu dévié, là. Le point le plus court, le chemin le plus court d'un point à l'autre, c'est la ligne droite. Eh bien, disons, le péché véniel, il préfère un peu la ligne courbe, disons, vous voyez. Hein? En gros, très gros. Donc, un détournement partiel, mais qui quand même peut attrister le bon Dieu, surtout s'il est habituel, ce péché véniel. Je pense qu'on vous en parlera peut-être plus spécialement, j'imagine, dans la confession et puis peut-être aussi à l'occasion de ce qu'on appelle le combat spirituel. Voilà. Alors bien, ayez bien donc ceci. Nous atteignons le péché mal de Dieu. Oui. Mal de son amour, mal de sa justice, mal de ses attributs, mal de sa sagesse. Oui. Totalement dans le cas du péché mortel. On refuse absolument quelque chose en péché. Soit comme Dieu, soit dans un de ses attributs directs. Et partiellement dans le péché véniel. Donc bien retenir cela. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à vous dire d'important ? Eh bien d'abord, dans tout péché mortel, on retrouvera ce qui se passe un peu dans le péché originel. Hein, les étapes de la tentation, par exemple. Suggestion, délectation, consentement. Voilà. Et le péché, surtout au niveau du consentement. Mais déjà, la délectation, ça nous affaiblit pas mal. Mais on peut encore la refuser. Parce que, par contre, le consentement, une fois qu'il est donné, péché est commis. Voilà. Et c'est intéressant de la relire de temps en temps, cette tentation du péché originel. Comment il s'y est pris. Même si apparemment c'est pas très glorieux, on dit que c'est pas très glorieux pour la femme, mais c'est pas glorieux non plus pour Adam. Hein. Et il pouvait refuser Adam comme chef de l'humanité, et saint Thomas nous dit qu'il est plus coupable que son épouse, parce que par son autorité, il pouvait refuser. Voilà. La femme s'est laissée prendre par sa sensibilité, les beaux discours, le beau, l'agrément, la curiosité, nous disent certains grands spirituels du XIe et XIIe siècle. Voilà. Et puis elle a présenté le fruit, voilà, beau à voir, agréable à manger, à donner à son époux. Puis après le péché, alors vous voyez le résultat, après le péché, dénudés, ils vont se cacher. La peur de Dieu, nous vient du péché originel. Oui. On ne peut pas avoir peur du bon Dieu. Donc vous le savez, ensuite privation du paradis terrestre, et nous avons ensuite cette tendance au péché, même quand nous sommes libérés de la tâche originelle, de la culpabilité, on pourrait dire, originelle, qui nous a été transmise par Adam, il nous reste ce penchant, ce foyer de concupiscence, qui est cette braise, toujours à l'intérieur de nous, là, hein, qui peut être réveillée par le vent des tentations du monde, ou notre simple faiblesse. Le Père Emmanuel, dans son catéchisme, fait ce qu'il appelle une généalogie du mal qui nous habite, et c'est là qu'on voit bien le mal de l'homme, vous voyez, le mal de l'être humain. Il dit... il y a les trois concupiscences, on parle Saint Jean, concupiscence des yeux, mauvaise convoitise des yeux, concupiscence de la chair, même d'abord, peut-être on va parler plutôt d'elle, disons, concupiscence de la chair, hein, mauvaise convoitise de la chair, mauvaise concupiscence des yeux, et orgueil de la vie. Et nous avons les sept péchés capitaux à l'intérieur de tout ça. Voilà. La chair, bah, c'est essentiellement... gourmandise, paresse et luxure. Ce ne sont pas des péchés en soi, c'est des tendances au péché. Excès dans le repos, excès dans la nourriture, voilà. Excès dans les convoitises du toucher, mauvaise concupiscence des yeux, l'avarice. Voilà. L'avarice, péché d'avarice. L'avare qui regarde son or, qui se délecte dans son or. Davantage véniel, mais qui ouvre la porte, c'est pas un péché capital, mais ça ouvre, et on le voit dans les âmes innocentes, chez les enfants notamment. Chez les âmes innocentes, le démon essaie de les amorcer par la curiosité. Ça va pas forcément mener directement au péché mortel, mais il essaie d'entrer un peu par là. Hein, tout l'importance de, il faut lutter contre cette petite passion. Elle est pas un péché mortel de soi, mais elle sert d'amorce. Alors si vous avez des enfants, eh bien, aidez-les. En ayant le soin et le souci de leurs devoirs d'État, de leurs jeux légitimes, de leurs saines activités, attention à la curiosité. Voilà. Curiositas, c'est la curia en trôle. Le soin, le souci qui est excessif. Voilà. Fions-nous la curiosité. Fissure capitale, peut-être pas péché capital, mais fissure capitale. Et puis l'orgueil de la vie. Orgueil, colère, envie. Notre mal septiforme, d'où vont sortir éventuellement des péchés mortels ou des péchés véniels. Voilà. Et c'est pour ça qu'il fait ça quand vous chercherez vos défauts dominants, que vous les connaissez déjà. Il y a toujours une connivence avec l'une de ces passions-là. Voilà. Bon, la tête étant souvent, toujours, bien sûr, plus ou moins, une forme d'orgueil, une forme de mauvais amour de soi. Alors distinguez bien l'acte du péché, la tendance au péché. Les gens croient parfois que le péché capital, c'est un acte. Non, c'est pas un acte, c'est une tendance mauvaise. Tendance, bien sûr, qui peut nous faire produire le mal, mais qui ne le produit pas toujours. Une tendance, une disposition, un dérèglement, un désordre qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller, évidemment. Eh bien, pour avoir la haine du péché mortel. Si on veut haïr l'acte du péché mortel ou l'acte du péché véniel, il faut apprendre nous-mêmes à haïr cette tendance que nous avons en nous et qui nous brûle à l'intérieur, voilà, qui nous brûle, hein, et qui fait qu'on peut commettre même parfois de simples péchés intérieurs qui ne paraissent pas à l'extérieur. Ce sont des péchés intérieurs, des tendances aux péchés intérieurs. Oui. Hein, toujours, bien sûr, regarder ces choses à la lumière de Dieu. Voilà, à la lumière de Dieu. Vous ne laissez pas tromper ou absorber dans le marécage de nos péchés. Toujours avoir conscience que, vous voyez, il faudrait, ce qui serait très bon pour que nous ayons une science de Dieu, une science du péché, un sens de Dieu, un sens du péché qui soit bien, ce serait très bon que lorsque nous avons passé un certain temps avec le péché, à examiner le péché, à connaître le péché, pas seulement le péché en général, mais mon péché à moi, que nous rebondissions vers les perfections de Dieu qui sont contraires à ce péché. Voilà. Alors, si nous avons lutté contre l'orgueil, regardons l'humilité du bon Dieu. Pense à l'enfant Jésus. Notre paresse à côté de la souveraine activité de Dieu. Notre gourmandise à côté de la souveraine mesure de Dieu. Oui, etc. Notre colère côté de la suavité douce et forte du bon Dieu, qui n'est pas colère. Quoi qu'on dise, ah oui, mais c'est en colère dans la Sainte Écriture. Oui, mais purifiant lieu de ce qu'il y a, il n'y a pas de passion, bon Dieu. Sa colère est toujours éminemment raisonnable, parce qu'elle est rarement chez nous. Envie, le bon Dieu a-t-il des envies? Oh, il a une sainte jalousie d'amour. Ah, il veut que sa créature soit pleine de lui, le bon Dieu. Ah, c'est pour ça qu'il est jaloux. C'est pas nos petites jalousies mesquines, le bon Dieu. Alors, je vous ai parlé au début de cette instruction de manque, du perte du sens de Dieu. Maintenant, je voudrais vous lire un texte sur la perte du sens du péché. Qui fait que parfois, nous avons des conceptions du péché qui sont mondaines. Voilà. D'abord, on n'ose pas parler du péché. C'est moralisant, c'est janséniste, c'est petit, c'est étroit, c'est je ne sais pas quoi. Évidemment. Que moralisme, et puis une certaine théologie morale qui a voulu, moralisant trop, juste définir, bon, et c'est utile, et il faut le faire, attention, loin de moi de dire qu'il ne faut pas le faire, mais d'écrire le minimum pour qu'il n'y ait pas péché. Alors, jusqu'où je peux descendre sans qu'il y ait péché? Hein? Ah bon, ah, je suis au-dessus ou au-dessus? Ah, c'est bon. Ouais, c'est peut-être bon du point de vue de la matière, mais du point de vue de l'intelligence et de la volonté, si on est comme ça, c'est un peu ceux qui veulent le strapon. Moi, je me contrerais d'un petit strapontin au ciel, ils risquent de rester au milieu de l'allée, ceux-là. Hein? Alors c'est utile pour le sens du juste, savoir où il y a péché, où il n'y a pas péché, évidemment. Mais si on construit toute la morale chrétienne là-dessus, c'est fichu. C'est fichu, quoi. Jamais on n'expérimentera vraiment l'amour du bon Dieu. On restera dans un calcul bien mal, un peu bon, un peu manichéen, un peu dualiste, un peu jansénisant. Et alors l'amour de Dieu, hein, Dieu justicier, d'ailleurs justicier uniquement pour punir le mal, pas justicier pour répandre le bien, vous voyez. Ça, c'est pas bon aussi dans le vocabulaire chrétien. Des fois, on parle Dieu de justice uniquement quand il punit. Mais non, heureusement qu'il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par là. Le bon Dieu dans sa justice aussi récompense le bien. Et même chez les païens, évidemment. Ah, il le récompense ici-bas. Oui. D'abord, les intellectuels de notre... C'est Joseph Folliet dans un article 1952. Les intellectuels de notre temps qui veulent justifier leur fausse théorie s'en prennent directement à la conception chrétienne du péché. Parce qu'elle les gêne. Et d'ailleurs, en général, ils ne se privent pas de mettre une autre échelle de valeur à la place. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une liste de péchés modernes. Péché moderne, c'est, je ne sais pas, être raciste, par exemple, c'est le souverain péché. Bon. Et ne vous en faites pas. Hein. Quand il y en a qui se mettent à la place du bon Dieu, ils savent bien aussi faire une échelle des biens et des maux. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment fait. On a beau tourner la nature dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours un sens du bien et du mal, quitte à le créer soi-même. Pour eux, l'idée du péché, c'est une superstition qui entrave la marche du progrès, 19e ça. Ou bien c'est une méconnaissance de la vraie nature de l'homme, qui n'est au fond qu'un loup ou un gorille féroce et lubrique. Bon. Ou bien il supprime le péché personnel. On dilue sa responsabilité dans le péché du monde. Péché du monde, ça c'est un peu l'église moderne ça. Certains vont jusqu'à essayer de réhabiliter, d'exalter le péché, dont ils font un acte libérateur. Voilà. Dans la masse du peuple, le mot péché est de plus en plus vide de sens. On parle de petit péché. Bon, parfois on dira dans le catéchisme chrétien, péché véniel, petit. Bon, ça reste quand même péché, ça fait de la peine au bon Dieu. Mais c'est petit au sens, si vous voulez, où ça nous... On va pas aller en enfer pour ça. Ça crée une faiblesse, on est moins beau, mais ça ne fait même pas diminuer la grâce. Ça la rend moins brillante, nous dit saint Thomas. Ça la ralentit, mais ça la fait pas diminuer directement. On parle de péché mignon, voilà. De péché rose ou de gros péché, voilà. Avec un clin d'œil et un sourire entendu. La notion de péché n'appartient plus maintenant qu'à l'univers enfantin, jusqu'à ce qu'elle s'en évade à son tour. On entend dire que le péché, c'est l'échec, c'est la défaite, c'est l'insuccès. À la faveur de cette confusion dans les idées, le vulgaire conclut à l'irresponsabilité universelle et même personnelle, ce qui est à la fois rassurant et commode. On lui explique d'ailleurs qu'il ne faut refouler aucun désir. Hein, notre bon maître Freud, psychanalyse, sous peine de maladie. Il est traumatisé, ce petit. Et que par conséquent, il vaut mieux pour la santé, évidemment, on a soin de notre santé, du corps surtout, il vaut mieux pour la santé suivre toutes les impulsions de l'instinct. Voilà. Au bout du compte, c'est non seulement l'idée du péché qui disparaît, mais celle de la responsabilité morale et même de la distinction entre bien et le mal. Cette atmosphère a contaminé les milieux chrétiens, qui étaient plus ou moins encouragés dans le même sens par une conception fausse et molle de la miséricorde divine. Et c'est vrai, si on n'a pas un sens aigu de la justice, on ne verra pas à quel point Dieu est miséricordieux. On affadira la bonté et la miséricorde de Dieu. Important d'avoir des idées justes sur Dieu. On s'en aperçoit tout particulièrement lorsqu'on remarque la désaffection dont fait l'objet le sacrement de pénitence, dans les années 60, il dit. Hein. Même si des personnes soi-disant pieuses. Voilà. Si vous voulez lire quelques passages sur le péché mal de Dieu, vous pourriez vous rapporter à deux auteurs. Un auteur qui est plus difficilement trouvable aujourd'hui, mais un qui est, je pense, oui, j'en ai vu quelques-uns livres là, dans Don Marmion, dans Le Christ vit de l'âme. Très beau passage, où il parle du péché mal de Dieu. Parce qu'il est négation par la créature des droits de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Marmion. En accomplissant librement une action contraire à la loi de Dieu, l'âme nie qu'il soit la souveraine sagesse, qu'il ait le pouvoir d'établir des lois, qu'il ait le droit de réclamer obéissance des êtres qui tiennent de lui la vie et la conservation de la vie. Elle nie que Dieu soit digne d'être préféré à tout. Finalement, elle ravale Dieu au-dessous de la créature. Péché mal de l'homme, je vous ai parlé de la mauvaise convoitise, la mauvaise concupiscence, la triple concupiscence. Bien voir aussi, donc, en son terme, comme mal de l'homme, surtout le péché mortel spécialement, donc la séparation de Dieu, être séparé de Dieu. Et voyez, en ce sens-là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils vivent encore avec les biens du bon Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, hein, c'est triste à dire, qui vivent comme des damnés vivants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas qu'ils ont la damnation sur la figure, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils vivent séparés de Dieu et s'en trouvent très bien, apparemment. Oui. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'ajoutera en fait l'enfer à ces personnes? Non pas la séparation de Dieu, ils y sont encore, ils y seront encore, sauf malheureusement qu'elle sera éternelle, mais ils y ajouteront le feu, à ça le feu ils le sentiront. Oui. Et voilà. Mais pourquoi? Pour l'instant, parce qu'il y a encore de douces créatures que le bon Dieu leur laisse, et tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir, c'est vrai. Tant que bon Dieu laisse la vie, c'est que son infini amour cherche à sauver les âmes. Voilà. Dans le péché, évidemment, surtout mortel, privation de la grâce sanctifiante, des vertus infuses et des dons. Voilà. Et bon Dieu est tellement bon que dans un même état de péché mortel, il n'enlève pas la foi, le bon Dieu, sauf un péché contre la foi. Il n'enlève pas l'espérance, sauf un péché contre l'espérance. Avec la grâce, on perd la charité par le péché mortel. Perte des mérites acquis depuis le baptême, au prix de grands efforts, parfois de souffrances et de sacrifices. Inclination au mal, renforcée par le péché, et contre laquelle il sera plus difficile de lutter dans l'avenir. Et le risque, bien sûr, d'un certain esclavage du démon et des passions, qui évidemment, après un péché grave, sème la panique, montre un Dieu, attention, vengeur. C'est très beau de voir dans la vie de saint Antonin, il est en train de confesser, et puis au fond de l'église, là, il y avait un petit démon qui était par là, et il sort de son confessionnal, et qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu vois le pécheur qui attend là-bas? Avant son péché, j'ai diminué la malice du péché. Voilà, j'ai diminué la honte du péché, le désordre du péché. Puis maintenant qu'il veut aller se confesser, je suis en train de lui rendre la honte et la malice du péché. Alors il n'ose plus aller se confesser, il tremble. Alors saint Antonin a fait une bénédiction exorciste, le démon est parti et le pécheur est venu se confesser. Mais c'est bien ça, hein, psychologie du péché, un petit peu. On diminue le mal, puis après, augmenter, puis on tremble devant Dieu. On ne tremblait pas pendant avant et pendant, mais après, oulala. Bon, pas se laisser faire par ce jeu-là. On en parlera peut-être plutôt dans la confession, mais bon, je pense que j'ai le temps de vous en parler un petit peu. Donc il y a le péché mortel, détournement de la fin totale, conversio ad creaturas à la place du bon Dieu, aversio ad Deo, on se détourne de Dieu, aversion de Dieu, hein, dans l'acte du péché au moins, ou dans un état. Péché véniel est bien seulement partiel. Je pense que, bon, dans des âmes qui, plusieurs d'entre vous, je pense, ont déjà fait plusieurs retraites, et je pense que c'est bon de leur parler de ce sujet, je crois qu'on l'aborde en général plutôt dans la confession, mais je peux vous en dire quand même un petit mot qui me semble important. De soi, un péché mortel est plus grave qu'un péché véniel, c'est évident. Objectivement. Mais à cause de l'amour que nous avons reçu du bon Dieu, le bon Dieu peut être très offensé par une suite de péchés véniels dont on ne veut pas se détacher. Ou on ne peut pas assez d'efforts, en tout cas, pour s'en détacher. Voilà. Et il faut craindre la tiédeur. Parce que la tiédeur nous endort. Oui. Bon, je prends deux âmes, ou la même âme, peu importe. Quelqu'un qui essaie de servir le bon Dieu. Le jour où il va tomber, il tombe, bon, faiblesse, accident, fragilité, que c'est un péché grave. Il veut se relever tout de suite, vite se confesser. Un bon acte de contrition d'abord, avec volonté de se confesser, puis il va. Puis, bon, après, bon, c'est un feu qu'on a pris et qu'on a tout de suite lâché. C'est loin de moi de vouloir que vous commettiez péché mortel, attention. Bon. Péché véniel, lui, ça endort. Enfin, une suite de péchés véniels. On ne secoue pas. On ne secoue pas sa médiocrité, on ne secoue pas sa tiédeur, etc. Ça nous endort. Voilà. Et le risque, le grand risque du péché véniel, c'est de nous endormir tellement, de diminuer tellement en nous les forces de résistance, que le jour où on va commettre un péché grave, ben, on risque d'être aussi mou contre le péché grave qu'on a été mou de façon habituelle contre le péché véniel. Disons pas, bon, acte par acte à égalité mortel-véniel, c'est évident qu'un mortel c'est plus grave qu'un véniel, mais je dirais qu'un péché mortel tout à fait accidentel, très singulier, très passager, etc., c'est moins grave qu'un état habituel de tiédeur, de véniel, de médiocrité. Voilà. D'où, dans la hiérarchie de nos peurs qui sont légitimes, d'abord, chers amis, ne craignons pas le démon. Craignons le péché. Parce qu'en général, le démon, il ne va pas nous apparaître, ce qu'on dit aux enfants, mais par contre, il va nous amorcer par le péché. Craignons le péché, d'abord. Le péché mortel, très spécialement, qui retire la vie divine. Après, craignons le péché véniel habituel, consenti, qui ferme la porte au bon Dieu. Là, dans cette pièce-là de mon âme, vous n'entrerez pas. Si, mon Dieu, je vous laisse les clés, mais je vous préviens, la serrure est difficile à ouvrir. Mais enfin, si vous voulez entrer, même par effraction, bon, dans ces petites choses-là que je me réserve, mes petits péchés mignons, mes petits lapins blancs et autres. Bon. Mais n'acceptons pas de pactiser, même avec des péchés véniels. Essayons de les faire reculer, ces péchés véniels, spécialement pendant une retraite. Essayons, avec l'aide du bon Dieu. Voilà, par délicatesse d'âme, par amour du bon Dieu. Et vous le savez, plus nous aimerons la vérité, plus nous allons haïr l'erreur. Plus nous aimerons le bien du bon Dieu, plus les moindres mots qui atteignent le bon Dieu vont nous toucher. Vous voyez ? Et donc, si vous êtes attentif et délicat, au moins diminuer la somme du péché véniel, eh bien, vous allez être fort, vigoureux contre le péché grave. Oui, parce que vous serez habitué à réagir aux petites choses. Oui. Vous aurez une âme plus délicate. Oui. Pensez un peu, c'est déjà pas pour vous effrayer, dire, oh, moi, de toute façon, les saints, je suis médiocre, je suis tiède. Bon. Essayons de diminuer notre tiédeur. Essayons de diminuer notre médiocrité. Essayons. Par un sentiment de confiance, et puis pour glorifier Dieu, pas pour avoir le plaisir de se voir dans notre beau miroir de la conscience, je suis pas mal quand même. Non, mon Dieu, Est-ce que cette image vous plaît? Est-ce que je ressemble un peu à Jésus? Est-ce que je ressemble un peu à Marie? Ouais. Est-ce que j'essaie de le ressembler un peu plus? Ouais, c'est ça qui est important. Ouais. Est-ce que je vous rends un peu plus de gloire en étant un peu plus délicat dans ma conscience? Voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est bien plus intéressant, la vie spirituelle. Hein. Vous êtes tout le temps en train de se scruter, se gratter, se... Pouf. Non. Je suis le miroir de Dieu. Voilà. Est-ce que je reflète assez le bon Dieu? Voilà, c'est ça qu'il faut se demander. Alors, si on regarde le bon Dieu, c'est lui le miroir.